Bonsoir. Deuxième heure de notre étude de la Bible en 24 heures. C'est intéressant parce que on va aborder très brièvement des sujets qui seront peut-être abordés beaucoup plus en détail par André Hagen ce samedi. Si vous avez besoin de quelques invitations, j'en ai ici pour passer à des amis ou distribuer. J'en ai quelques-unes en rab ici. On a fait une introduction de la Bible. Elle n'est pas encore en ligne, mais j'espère qu'elle sera très rapidement. Donc si vous n'avez pas pu être là pour la première semaine, vous pourrez rattraper, écouter la première heure. On n'a pas tout à fait terminé l'introduction générale de la Bible. D'abord, le terme de Bible, ça vient d'un mot grec, biblia, qui est le pluriel du mot biblion, qui veut dire livre. C'est-à-dire que ça venait du mot biblos, qui désignait tout ce qui était écrit, notamment sur des papyrus, des papiers faits à partir de roseaux du Nil. En fait, la Bible, c'est donc un ensemble de livres. C'est les livres, c'est le livre par excellence. Une chose qui est toujours très intéressante, c'est de savoir comment est-ce qu'on a reçu ce texte qu'on a entre les mains. Sans parler déjà du problème des différentes traductions, on y reviendra un peu. Mais l'histoire de la transmission de la Bible, c'est toujours quelque chose de fascinant. Il y a un petit livre, je ne sais plus si on en a encore, l'histoire merveilleuse de la transmission de la Bible. Ça coûte que quelques euros, je crois que j'en ai pour le stand biblique. Et ça parle de ce que je vais vous dire un peu beaucoup plus en détail, sans être encore un ouvrage d'érudition, parce qu'on peut parler, on peut faire des cours entiers d'introduction à la Bible en étudiant la transmission des manuscrits, et c'est fascinant, mais ce n'est pas vraiment l'objet d'un survol en 24 heures. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle le canon de la Bible. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu ce terme, le canon? Alors, il ne s'agit pas d'artillerie lourde, il ne s'agit pas de tirer à boulet rouge sur les non-croyants. Le canon, ça vient du grec canon avec un K. Et là, c'était en fait une canne qui était utilisée pour mesurer. On n'avait pas un mètre, ou encore moins des mètres électroniques avec des rayons laser. On utilisait un bout de bois, un bout de roseau. Et c'était ça qui servait de règle de mesure et qui définissait ainsi la norme. Et la norme, ça vient du latin qui veut dire norme, c'est la règle, c'est l'équerre. On parle des fois, vous avez peut-être entendu parler, du canon de la beauté antique, qui est différent du canon de la beauté du 19e siècle. Aujourd'hui, on retrouve le même sens dans une expression familière. On dit, cette fille, elle est canon. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle tire des boulets sur les garçons qui l'approchent. Ça veut dire qu'elle correspond à la norme de beauté reconnue pour notre époque. Et par dérivation, le canon, c'est devenu la norme biblique, c'est-à-dire l'ensemble des livres reconnus comme faisant partie de la parole de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on détermine les livres qui vont être pris dans la Bible, dans la parole de Dieu? Il y a un principe fondamental, ce qui détermine cela, c'est l'inspiration divine. C'est ça qui va déterminer si un livre est dans le canon ou pas. Et on a dit que la canonicité, elle est déterminée par Dieu. Elle est seulement reconnue par les hommes. On voit un texte et il nous semble inspiré. Et vous vous souvenez de ce que disait l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 1, 21. Encore un verset facile à se rappeler, 21, 21, 2 Pierre 1, 21. Ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est Dieu qui parle, et c'est l'homme qui reconnaît que le texte est inspiré. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître qu'un texte est inspiré? Peut-être qu'Anne va lire un texte, elle va trouver que c'est formidable, elle va dire ça c'est inspiré. Moi je vais lire Métro, je vais trouver qu'il y a un passage formidable. Et puis quelqu'un d'autre va lire l'annuaire et va dire tiens ça c'est des numéros qui vont en croissant, c'est une jolie série. Non. Comment est-ce qu'on détermine l'inspiration d'un écrit biblique? Il y a deux choses, et c'est différent pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, un texte est reconnu comme étant inspiré s'il possède une autorité prophétique. Qu'est-ce que c'est que l'autorité prophétique? Ça veut dire que ce texte a été écrit, on peut recouper à travers l'histoire et les textes, que ce texte a été écrit manuellement sous l'inspiration de Dieu par un prophète. Et un prophète, c'était simple, c'était quelqu'un qui parlait de prophétie dont on voyait un accomplissement immédiat. Donc on pouvait savoir si un type qui se prétendait prophète était vraiment un prophète, parce qu'il allait dire des choses qui allaient avoir une réalisation immédiate. Le prophète Ésaïe disait que la femme allait avoir deux enfants, et il avait deux enfants avec sa femme qui représentaient une réalisation future de certains événements. Dans l'Ancien Testament, il y a une expression qui revient sans arrêt, c'est « ainsi parle l'Éternel ». Dans la Bible, second à la colombe, c'est traduit par une expression que j'aime pas, c'est « oracle de l'Éternel ». Et ça apparaît pas une fois, pas deux fois, ça apparaît près de 3000 fois. Et on peut donc savoir si un texte a cette autorité, s'il parle sous cette forme « ainsi parle l'Éternel ». Alors c'est vrai, j'ai connu des gens à notre époque qui étaient un peu illuminés et qui disaient n'importe quoi, mais ils préfaçaient ça par « oracle de l'Éternel, tu dois pas aller à Paris maintenant ». Ah bon? Alors, il y a un don prophétique pour aujourd'hui, mais ce n'est pas le don prophétique dont parle la Bible pour déterminer si un texte est inspiré ou non. Les gens qui avaient ce don prophétique, comme le roi David, comme le roi Salomon, comme le prophète Ésaïe, avaient ainsi une autorité prophétique. Mardi encore, on lisait un texte de David, un psaume de David, où il était dit que l'ennemi, il abattrait, il écraserait le talon de l'ennemi. Et on sait que ce texte a été cité par Jésus beaucoup plus tard, faisant donc la preuve que c'était un texte qui était inspiré. Ça, c'est aussi un critère. C'est que d'autres passages dans la Bible citent ces textes. Jésus-Christ connaissait très bien les psaumes, comme tous les enfants juifs. Il connaissait en particulier un texte qu'il citait le plus souvent, c'est le Deutéronome. Il avait une prédilection, souvent il citait des textes de ce livre de l'Ancien Testament. Ces textes sont cités par Jésus-Christ ou d'autres apôtres. Paul disait dans Romains 3:2, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Ces prophéties ont été confiées aux Juifs. On est reconnaissant aux Juifs d'avoir préservé ces oracles, ces textes de l'Ancien Testament. Il y a un mot en hébreu, c'est la Tanakh. Ça vient des abréviations de la Torah, des Nubim et du mot qui désigne donc les prophètes et les Ketubim, T-N-K. Tanakh, la Torah, les prophètes et les psaumes et les prophètes. Dans l'Ancien Testament, il y a un autre facteur pour déterminer l'inspiration d'un écrit biblique, c'est ce qu'on appelle l'autorité apostolique. On ne cherche plus des prophètes au sens de l'Ancien Testament, mais des personnes qui avaient l'autorité apostolique. Ça revenait aux 12 apôtres. On peut éliminer Judas et ajouter Paul à la place de Judas. On a toujours 12 apôtres. Et ainsi qu'aux personnes qui étaient étroitement liées à ces apôtres. Un compagnon de Pierre, c'était qui? Qui a écrit des textes dans la Bible? Marc. Marc qui a écrit l'évangile de Marc. Il était très proche, c'était un collaborateur de Pierre. C'est Pierre qui lui dictait, c'est Pierre qui lui racontait certaines choses, et Marc les notait. Un autre compagnon d'un apôtre a écrit aussi un évangile, le compagnon de Paul, qui s'appelait comment? Luc, exactement. Le médecin, c'était quelqu'un qui était à côté d'un apôtre, qui voyait comment se déroulait l'annonce de l'évangile. Il avait cette autorité apostolique. Plus tard, Paul, dans Éphésiens 2:20, dira « Vous avez été édifiés, construits sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En anglais, la « cornerstone ». C'est Jésus, et à partir de Jésus, il y a le fondement. Avant Jésus-Christ, qui est la pierre posée, qui tient tout l'édifice de notre foi, il y a eu les révélations des prophètes, les révélations des apôtres. Un critère déterminant dans l'Église des premiers temps, ce qu'on appelle l'Église primitive, l'Église du premier siècle, c'était que ces textes étaient lus dans l'Église primitive. Il y a un autre facteur qui démontre une canonicité, c'est-à-dire une inspiration. C'est une chose plus subjective, mais c'est le témoignage interne de l'Esprit-Saint. Vous lisez des passages et l'Esprit-Saint vous parle à travers ces passages. C'est un témoignage interne qui ne peut pas vraiment servir à convaincre ceux qui ne sont pas croyants. Mais c'est notre esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui montre à notre esprit quoi? Que nous sommes enfants de Dieu. Il y a ce témoignage intérieur de l'Esprit Saint qui nous dit ce texte, c'est Dieu qui te parle. C'est pas quelque chose qui a été rapporté par les hommes et qui n'a pas d'autre profondeur. 400 années avant Jésus-Christ, avec le scribe Esdras, dont il est question dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament avait été à peu près défini. Après Jésus-Christ, il y a eu un concile en 90, où des rabbins se sont mis d'accord pour éliminer certains textes de l'Ancien Testament, qui ne devaient pas être inclus. Il y a eu plusieurs classements dans la façon de présenter la Bible. Si vous prenez la Bible des protestants, la Bible second, vous avez un certain ordre de présentation. Si vous prenez la Bible de rabbinique, c'est une traduction française de la Tanakh, des livres juifs, de l'Ancien Testament, il y a une présentation d'abord des prophètes, des livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ensuite, il y a les prophètes, et puis après, il y a les psaumes. Donc des fois, quand on passe d'une Bible à l'autre, si ce n'est pas exactement le même genre de texte, on peut être un peu désorienté, mais il y a des textes qui se retrouvent, on les retrouve. Au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, les Juifs avaient commencé à se répandre dans l'Empire, dans le bassin méditerranéen, et il y a le roi d'Égypte Ptolémée II qui a ordonné la traduction de toute littérature juive, parce que la littérature juive n'était plus lue par les juifs, qui ne connaissaient pas assez bien l'hébreu. Et c'était le grec qui se répandait, c'était la langue, comme aujourd'hui on a l'anglais, qui permet de voyager un peu partout et de communiquer avec beaucoup de monde. À l'époque, c'était le grec, et il est né, ainsi la version des 70, des 70, elle est ainsi appelée parce qu'il y a 70 sages qui étaient des juifs, qui connaissaient bien l'hébreu, mais aussi le grec, qui ont procédé à cette traduction. Et c'est eux qui ont fait l'ordre qui prévaut aujourd'hui dans notre Bible seconde, par exemple. 300 ans après Jésus-Christ, il y a eu un concile important qui s'appelait le concile de Nicée. C'était pas à Nice, c'était à Nicée, en Asie mineure. Et là, à l'époque, c'était pour lutter contre une hérésie qu'on appelait le gnosticisme. Gnosticisme, c'est pas facile à dire, essayez. C'est ceux qui étaient arrivés à la gnose. Le mot gnose, c'est la connaissance. C'est-à-dire qu'on pouvait accéder à un état de connaissance supérieure. Et là, ils faisaient la différence complète entre le corps et l'esprit, en disant que le corps, c'est matériel, c'est toujours mauvais, mais l'esprit, c'est immatériel, c'est bien. Et ils pouvaient en arriver à dire que c'était pas grave si on vivait dans la débauche, ça n'impliquait que notre corps, notre esprit, lui, pouvait avoir une relation avec Dieu. Bien sûr, ça c'est complètement hérétique, c'est complètement faux. Ils disaient que Jésus n'était pas le Christ. Il était né comme un homme, et à son baptême, lorsque l'Esprit Saint était venu sur lui, il était devenu le Messie, il était devenu le Christ. Et juste avant d'être crucifié, son esprit était parti et il était redevenu un homme qui était mort sur la croix. Donc il séparait complètement l'esprit de l'esprit. Et ce concile a voulu éliminer toutes ces fausses doctrines qui étaient véhiculées dans certains textes. Et il y a un certain Jérôme, c'était ce qu'on appelle un évêque, un responsable religieux, chrétien. Vous avez peut-être entendu parler de l'expression « les pères de l'Église », c'est-à-dire ces anciens apôtres, c'est pas des anciens apôtres, des anciens évêques, des anciens responsables qui avaient une grande influence, qui ont traduit les textes. Et lui, en 405, il a terminé une traduction qu'on a appelée la Vulgate. Vous avez peut-être entendu parler de la Vulgate. C'est elle qui est à la source de la traduction catholique de la Bible. Elle est devenue, dès le 9e siècle, c'est devenu la version officielle de l'Église catholique romaine. Il a incorporé ce qu'il a appelé des livres apocryphes, c'est-à-dire des livres cachés, dans sa traduction de la Vulgate, tout en précisant qu'il le faisait parce qu'ils avaient été traduits par les Septante, par la Bible des Septante, par ses 70 sages à Alexandrie. Mais lui-même disait qu'il n'avait, il ne fallait tirer aucune doctrine de ces livres. L'Église catholique s'est réunie pour lutter contre la réforme initiée par Luther, Calvin et les protestants. Au concile de Trente, de 1546 à 1563, et pour lutter contre la réforme, ils ont décidé de valider ces livres apocryphes. Et ces livres apocryphes, c'est là qu'on trouve des doctrines comme la doctrine du purgatoire et des tas de doctrines qui ne sont pas bibliques. Mais c'est intéressant de connaître l'histoire qui a conduit à faire que ces textes maintenant se trouvent dans la Bible catholique, alors que la personne elle-même qui a traduit les textes disait surtout n'utilisez pas ces textes comme des sources de doctrine. En 1448, il s'est passé quelque chose de très important. Est-ce que vous vous souvenez de cette date? 1448. L'invention de l'Internet. Voilà, l'imprimerie. L'imprimerie avec des caractères métalliques mobiles. Par un certain Johannes Gänsefleisch, mieux connu sous le nom de Johann Gutenberg. Il a mis 2 ans à publier la première Bible imprimée, une Bible faite sur 2 colonnes en 42 lignes, on parle de la Bible à 42 lignes. Et puis c'est avec Luther, qui est mort en 1546, qui a commencé la réforme en 1520, qu'on a vraiment assisté à un retour à la Bible telle que on la connaît aujourd'hui dans les milieux protestants. J'ai dit tout à l'heure que 3800 fois on trouvait dans l'Ancien Testament « ainsi parle l'Éternel ». Devinez combien de fois on trouve cette expression dans les livres apocryphes. 0 pointé. Ne vous laissez pas impressionner par les catholiques qui vous disent « oh, votre Bible est différente, vous avez oublié les textes importants ». C'est des textes qui devaient être laissés de côté par Jérôme lui-même, c'est lui-même qui le disait. Quelques mots sur la traduction. On a dit la semaine dernière que le texte original a été écrit en hébreu. En araméen, c'était une version de l'hébreu qui était parlée en Palestine à l'époque de Jésus, et en grec. Pour traduire, il y a toujours 2 approches possibles. Soit on privilégie la traduction mot à mot, soit on privilégie un texte qui se lit bien, qui coule bien dans la langue de l'époque où elle est traduite. L'intérêt, les deux approches ont des intérêts et des inconvénients. La précision de l'approche mot à mot, elle nous permet de savoir quels étaient les mots qui étaient utilisés à l'époque, de voir les structures grammaticales. Elle nous permet de faire une analyse de texte très précise. Le problème, c'est que ce n'est pas très facile à lire. Ça ne coule pas bien aujourd'hui. Une Bible qui est proche du mot à mot, c'est par exemple la Bible qu'on appelle la Bible Darby, qui est utilisée dans les églises de frères. Et on peut voir... On peut faire correspondre le texte grec et voir le texte, le mot français qui a été utilisé pour traduire presque chaque mot. Et c'est riche, ça permet de faire des analyses très intéressantes. Par contre, l'autre procédé, c'est de plus faire du mot à mot. Et c'est ce qu'on appelle, il y a le principe d'équivalence dynamique en traduction. Vous qui faites de... Je ne sais pas si vous parlez de ça dans vos programmes de langue étrangère ou d'enseignement des langues. On va chercher une expression qui correspond, qui rend la même idée plutôt que le même mot. Et ça va être beaucoup plus facile à lire. Alors aujourd'hui, il y a des textes ainsi, il y a la traduction, par exemple, en français courant, qui rend dans un texte plus lisible, plus facile à lire, les mêmes idées que celles qui sont contenues lorsqu'on regarde le mot à mot. Et bien sûr, le mieux c'est d'avoir plusieurs copies, ou alors de pouvoir se familiariser avec les langues d'origine, pouvoir lire dans le texte, et c'est pas si difficile que ça, si on s'en donne le temps et l'intérêt, si on a l'intérêt, et on peut voir... Que disait le texte? Maintenant, il y a des tas de ressources en ligne avec Internet où vous pouvez voir des programmes gratuits qui vous cliquez sur un mot en français, qui vous donnent le mot en grec avec toute une variété de nuances qui vous permettent de mieux saisir les nuances justement du texte et de mieux comprendre. On a dit que la Bible, on n'avait malheureusement pas les manuscrits originaux. Je dis malheureusement parce que notre souhait, ça serait d'avoir, ça serait formidable d'avoir le texte original. Mais si on avait les textes originaux, je suis sûr qu'on en ferait des objets d'adoration. On les mettrait dans des boîtes en or, on viendrait en pèlerinage lire les paroles, les mots qui ont été gravés par l'apôtre Jean lui-même, et on en oublierait même le sens de ces mots. On a dit aussi la semaine dernière qu'il y a une science qui s'est développée et qu'à partir de plusieurs copies d'un texte, des principes scientifiques permettent de reconstituer l'original. Et j'ai pu, en école biblique, je sais qu'il y en a qui sont impatients d'aller en école biblique, on fait des choses passionnantes en école biblique, notamment, on vous donne plusieurs copies d'un texte original. Et on vous demande d'essayer de retrouver le texte original. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des principes très simples qui font que vous pouvez corriger vos copies et vous rapprocher d'un texte original. Je crois que j'en ai parlé brièvement la semaine dernière. Lorsque on ne comprend pas un passage, on a tendance à le simplifier. Donc s'il y a un texte simple et un texte compliqué pour un passage parallèle, on a tendance, il faut davantage privilégier le texte compliqué que le texte simple. La probabilité que la personne qui a recopié a dit « j'y comprends rien », je vais simplement dire que Dieu nous aime. Plutôt que de dire « il va visiter les cinq descendants », etc., On simplifie. Ça, c'est un des premiers principes. Un autre principe, c'est que lorsqu'on recopie quelque chose, si on s'accroche à un mot, Jésus fit ceci, plusieurs lignes, puis Jésus fit cela, l'œil va chercher le mot Jésus. Et s'il y a une erreur dans la copie, c'est lorsque la personne ne va pas, va sauter un passage parce qu'elle va aller au deuxième Jésus. Donc s'il y a un passage qui n'existe pas dans une copie et qu'il est dans une autre copie ou dans plusieurs autres copies, on peut se dire que c'est une erreur de copie qui a été faite par un tel. Et donc, le fait qu'on n'ait pas les manuscrits originaux, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas déterminer l'original. Et aujourd'hui, on a un original dont on est sûr à 99,5%. D'après les 23 000 parchemins, les 23 000 éléments qu'on a, les manuscrits ou les bouts de manuscrits qu'on a, on peut dire qu'à 99,5% on sait quel était l'original. Ça, c'est formidable. Et ce qui est encore plus formidable, c'est que ces petites variations, ces 0,5%, ne concernent en rien des points de doctrine fondamentale. Donc la Bible qu'on a, on peut avoir confiance qu'elle est la parole que Dieu a voulu nous transmettre. Et le fait qu'elle nous soit parvenue, c'est déjà un miracle. On a parlé la semaine dernière, vous écouterez, la préservation, la transmission. Dieu veut dire, il dit ce qu'il veut dire, et ce qu'il dit, il veut nous le dire. Dieu n'a pas de problème à nous faire transmettre sa pensée. Il ne nous dit pas tout, mais tout ce qu'il nous a dit, il nous l'a dit clairement. C'est Mark Twain qui disait, c'est pas les passages que je comprends pas ou les passages que je ne connais pas trop qui me gênent, c'est les passages que je comprends trop bien et auxquels je n'obéis pas. Donc d'un point de vue moral, spirituel, on a assez à faire. Et il y a ce passage aussi dans Deutéronome 29-29 ou Deutéronome 29-28 dans la Bible qui dit que les choses révélées appartiennent aux hommes et que les choses cachées appartiennent à Dieu. Il semble que les hommes soient toujours en train de poser des questions sur les choses qui ne sont pas clairement révélées, au lieu de se concentrer sur ce qui a été clairement révélé. Mais ça, c'est notre vieille nature qui cherche toujours à échapper à ce qui est clairement révélé par Dieu.